Vous écoutez France Culture, il est 6h45 pile, vous pouvez régler vos montres. C'est à la seconde près. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Aujourd'hui, dans les enjeux internationaux, radioscopie d'une transition politique en cours, et c'est au Soudan.
Oui, alors qu'au Liban, en Algérie, en Irak, pour ne citer que, les soulèvements en cours croient à leur pouvoir de changement et de réforme, mais ne paraissent pas pour l'instant en position ni de négocier avec le pouvoir ni de le prendre. C'est le cas aussi en Guinée ou en République démocratique du Congo, on en parlait la semaine dernière. Eh bien, le Soudan paraît aujourd'hui le seul contre-exemple. Alors, il ne s'agit pas de comparer des pays aux trajectoires très différentes, mais de comprendre comment l'insurrection soudanaise a pu avoir des débouchés politiques concrets, même si on n'en est qu'aux prémices de la transition. Il faut dire qu'il avait un peu d'avance. Les grandes manifestations qui ont fini par avoir raison de la dictature d'Omar el-Béchir avaient commencé il y a un an à peu près. Bonjour Clément Déhay.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes anthropologue à Paris 8, chercheur au collectif Noria. On peut peut-être avec vous commencer par redire en quelques mots la chronologie enrichie du recul qu'on a aujourd'hui de ce long soulèvement pacifique que l'armée a fini par soutenir sur la fin en faisant tomber Omar el-Béchir au pouvoir depuis 30 ans.
Alors, comme vous l'avez dit, le soulèvement soudanais a commencé mi-décembre et a duré pendant donc presque un an. On a commencé par plus de 6 mois de manifestations, d'abord éparses, de plus en plus massives, un peu partout dans le pays, jusqu'à la date fatidique donc de la chute d'Omar el-Béchir, le 11 avril. Le 6 avril, juste avant, une grande manifestation rassemblant des centaines de milliers de personnes a réussi à converger devant le commandement général de l'armée et s'est installé à cet endroit-là. L'armée a réagi et a destitué Omar el-Béchir. À partir de cette phase-là, on est rentré dans une période de négociation entre l'armée et un certain nombre de groupes civils. La différence avec les pays dont vous avez parlé, c'est que très rapidement, des syndicats de professionnels clandestins ont pris le relais des manifestants et ont négocié avec l'armée.
L'association des professionnels soudanais.
Exactement, qui est une association qui regroupe des formations plutôt de professions plutôt libérales, donc des médecins, des professeurs, des infirmiers, des pharmaciens, et qui ont négocié avec le régime et qui ont été vraiment la voix de la rue et qui ont permis d'aiguiller également les partis politiques d'opposition vers des négociations et une pression sur les militaires.
Donc avec une vraie force de frappe, cette association des professionnels soudanais, beaucoup plus par exemple que la Lucha dont on parlait la semaine dernière avec Marlène Rabault en République démocratique du Congo, des civils qui pacifiquement vont manifester. Mais l'association des professionnels soudanais, est-ce qu'avec le recul on peut comprendre pourquoi elle a réussi à avoir ce pouvoir-là ?
Il y a eu une accumulation au Soudan depuis une dizaine d'années de protestations et de contestations diverses où les acteurs politiques et les acteurs civils, mais également des communautés dans les quartiers populaires se sont formés et se sont rodés à des techniques de protestation, d'évitement de la police, de pression. Il y a quand même eu un certain nombre de larges manifestations en 2013 et 2012 qui ont été réprimées dans le sang, qui ont été très violemment réprimées par le régime. Et donc au fur et à mesure, il y a eu une acquisition par les protestataires et par le personnel politique d'opposition clandestin de certaines formes de compétences pour pouvoir négocier avec les militaires ensuite.
Donc le 11 avril, Omar el-Béchir est destitué, se met en place un conseil militaire de transition, progressivement remplacé par un conseil dit souverain. Il compte 11 membres ce conseil, 5 civils, 5 militaires et un 11e membre désigné conjointement par les deux parties. C'était déjà une gageure de le mettre en place, il fallait qu'il soit représentatif. Et au Soudan, représentatif, ça veut dire beaucoup de choses.
Alors, ça a été très très long en effet cette négociation parce que les militaires voulaient rester majoritaires déjà, ce qu'ils ont fini par admettre, par remettre en cause. Par contre, sur la représentation, il fallait des gens des différentes régions en guerre puisque le Soudan connaît deux guerres civiles, donc au Darfour et au Kordofan et un petit peu au Nil Bleu, mais de manière un petit peu plus marginale. Et en plus, un certain nombre de représentations politiques, donc dès l'association des professionnels, de certains partis politiques, des femmes, mais aussi des coptes soudanais. Donc ce conseil souverain a été très compliqué à mettre en place.
Et des femmes.
Deux, parce que la dernière membre, la 11e, a été finalement une femme également, une femme copte.
Il fallait aussi faire en sorte que ce conseil ne se laisse pas phagocyter par les généraux. Or, qui retrouve-t-on dans ce conseil? C'est même son président, Abdel Fattah al-Burhan, général qui a accompagné Omar el-Béchir pendant ses 30 ans de règne. Présent également le général dit Emeti, dont les hommes avaient réprimé dans le sang une manifestation à Khartoum début juin devant le QG de l'armée. Est-ce que cela remet en cause aujourd'hui, tel que vous l'observez, le transfert du pouvoir des militaires vers les civils. C'est ce que prévoit l'accord. Est-ce qu'ils réussissent à montrer un peu de bonne volonté là-dessus?
La situation est encore assez fluide. Pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour tirer des conclusions. Mais les militaires ont refusé la constitution d'un gouvernement civil pendant longtemps. Ils ont négocié pied à pied de garder le maximum de prérogatives. Au fur et à mesure, sous la pression avant tout de la rue, puisque de nombreuses manifestations ont continué après avril, et notamment en juin et en juillet, les militaires ont progressivement lâché un petit peu de pouvoir. Pour autant, les militaires sont toujours présents, notamment le chef milicien, puisque ce n'est pas un militaire, Emeti, le général Emeti est un général de milice, qui a été rattaché à l'armée, mais qui est une milice paramilitaire qui détient énormément de pouvoir économique et militaire au Soudan actuellement. Donc voilà, on est dans une situation où les militaires lâchent un petit peu, les civils prennent de plus en plus de confiance. Néanmoins, les militaires sont toujours là, ils gardent le contrôle sur le ministère de la Défense, sur le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Donc on n'est pas dans une dynamique où les militaires sont complètement mis de côté. Ils gardent un certain nombre de prérogatives économiques. Le Conseil souverain dans lequel qu'ils président valide les nominations du gouvernement civil. Donc les militaires sont toujours bien présents dans le régime actuel, même s'ils ont perdu énormément de pouvoir.
Avec une question sur laquelle achoppent les discussions sans doute en ce moment. Or, hier, il y a eu une actualité, une partie de l'opposition a dit accepter ou ne pas émettre d'objection au fait qu'Omar El-Béchir soit transféré à la Cour pénale internationale qui le poursuit depuis des années pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité commis au Darfour. Les militaires, eux, risquent de ne pas en avoir envie, notamment parce qu'il n'y a pas qu'Omar El-Béchir qui serait concerné.
Exactement. Il ne faut pas oublier non plus qu'Omar El-Béchir est lui-même un général de l'armée. Donc c'est un militaire et donc il y a un esprit de corps pour le protéger un petit peu, en tout cas. Néanmoins, on a une vraie avancée du côté civil, puisque jusque-là, il n'était pas dans les négociations, même avec les militaires, de penser à une extradition d'Omar El-Béchir. On arrive aujourd'hui à cette possibilité. Donc la négociation n'est pas finie, puisque les militaires vont très probablement s'opposer à cela. Après, cette possibilité va donner lieu à des négociations de pouvoir, puisque les militaires vont peut-être accepter que seulement Omar El-Béchir soit extradé et non pas les autres militaires qui sont poursuivis par la CPI. Tout ça va être un jeu d'équilibre et de rapport de force.
Alors le Premier ministre et ce gouvernement civil dont vous avez parlé, Clément Dehaye, Premier ministre Abdallah Hamdok, un ancien économiste avec une très bonne réputation, mais qui a longtemps regardé le Soudan de loin parce qu'il vivait en Éthiopie où il avait des fonctions importantes à l'ONU. Il avait trois priorités. La première, c'était de mettre fin aux pénurie de nourriture. Est-ce qu'il a trouvé l'argent nécessaire, ce qu'il cherchait quand il est arrivé? Je crois qu'il avait besoin de 2 milliards au départ, puis 10 sur le moyen terme.
Alors, les pénuries n'ont pas cessé. Il y a moins de pénuries de devises, parce qu'il y avait un problème d'argent liquide au Soudan donc pour acheter de la nourriture. Mais en revanche, les pénuries d'essence, de pain, de gaz continuent. Alors, elles sont un peu plus faibles qu'en fin d'année dernière, mais elles sont toujours là. Donc, l'argent frais, de toute façon, le gouvernement va avoir besoin de temps. La population soudanaise le sait dans l'ensemble. Néanmoins, la situation économique reste dramatique.
Un mot aussi, parce qu'il devait mettre en place, il l'a fait, un gouvernement de technocrates. Il l'a fait début septembre après de longues tergiversations. Et c'est exactement ce que réclament les Libanais. Alors qu'ici, quand on dit en France un gouvernement technocrate, c'est pas ce qui...
Oui,
fait le plus
alors
il
faut aussi se replacer dans un contexte soudanais où l'opposition, alors non pas les professionnels, les syndicats, mais les syndicats ont très rapidement dit qu'ils n'avaient aucune vocation à gouverner. Mais les partis politiques soudanais sont largement décriés, même les partis politiques d'opposition, puisqu'ils sont tenus pour certains responsables de l'arrivée d'Omar El-Béchir dans les années 90. Et les Soudanais se souviennent des grandes crises économiques également des années 80 où les gouvernements civils avaient le pouvoir. Donc on est dans une dynamique un petit peu différente, même si une partie des Soudanais regarde ce gouvernement technocrate avec un petit peu de circonspection, notamment toute la gauche soudanaise qui voit d'un œil mitigé l'arrivée d'anciens conseillers du FMI et de l'ONU à la tête du pays. Donc on est pour l'instant sur un soutien global parce que il y a un rapport de force avec l'armée et donc la priorité est de garder un gouvernement civil. Néanmoins, les mesures économiques de ces ministres vont être scrutés de près par une partie de la population.
La question de la souveraineté est toujours très sensible, et notamment celle la question du transfert de Mar el-Béchir devant la CPI, c'est aussi une question de souveraineté et qui fait peur au Soudan.
Bien sûr, et le Soudan a également une dette absolument énorme. Donc cette question de la souveraineté et de la négociation de la dette va être également au cœur des prochains mois au Soudan.
Alors la transition doit durer 39 mois, un peu plus de 3 ans. Qu'est-ce qui pourrait faire échec? Elle est encore fragile. À l'extérieur, évidemment, en Égypte, on n'a pas tellement intérêt à ce que ça marche.
Alors pour l'instant, les parrains régionaux sont sous la pression des États-Unis et de l'Europe pour que cela fonctionne. Néanmoins, en effet, l'Égypte, le régime militaire égyptien, ne voit pas d'un œil favorable cette transition. Ils vont continuer à soutenir l'armée et essayer de maintenir l'armée dans une position de force au Soudan. L'enjeu ne va pas être tellement pour l'instant dans les prochains mois ou dans l'année à venir. Est-ce que il va y avoir un coup d'État ou non? On est plutôt sur savoir quelle place vont prendre les militaires et les civils, quel va être le rapport de force. Par contre, sur le long terme, la question va se reposer à nouveau.
Le long terme, le temps joue en faveur des militaires. Parfois, ça a été le cas en Égypte et c'est sans doute ce qu'il se dit aujourd'hui au Caire. Merci beaucoup Clément Dehaye d'avoir été avec nous ce matin. Merci, bonne journée.